Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Nieubourg.
Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le Chief Executive Officer, un des cofondateurs d'une société qui s'appelle EcoJoco, Laurent Bernard. Laurent Bernard, bonjour.
Bonjour Philippe, enchanté.
Alors, expliquez-nous un petit peu. EcoJoco, c'est amusant comme nom. Vous faites un assistant à l'économie d'énergie. J'ai noté dans votre présentation sur le site web, faites très attention à pas utiliser le terme de compteur. C'est un sujet qui est délicat aujourd'hui de se rapprocher d'un compteur électrique. Donc, vous avez un assistant à l'économie d'énergie. Expliquez-nous un petit peu en quoi est-ce que tous les gens qui détestent Linky peuvent quand même aimer EcoJoco.
Ouais, non, c'est vrai que c'est un point important. On a fait attention de ne pas utiliser le terme compteur. Donc nous, ce qu'on fait, on le décrit comme un assistant, en effet, pour économiser de l'énergie. L'idée derrière, en fait, est très simple. C'est le fait que tout le monde éteint des lumières quand il quitte une pièce. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'électricité ne se voit pas. Et donc, en permanence, on gaspille de l'électricité sans le voir. Ça va être un radiateur qui va être mal réglé. Ça peut être aussi un frigidaire qui va être mal réglé ou qui va dysfonctionner, qui a un problème de réglage. Ça peut être une casserole sur laquelle j'ai pas mis de couvercle, j'utilise pas bien un produit. Voilà. Au global, en fait, tout ça, c'est 25% de notre consommation d'électricité qui est gaspillée. 25%, c'est un chiffre qui est très important parce que ça représente, c'est 3 mois de facture, donc en gros 300 € par an en moyenne pour un foyer français.
La facture moyenne, c'est 100 € par mois à peu près.
Exactement, c'est à peu près ça. Un peu plus maintenant, parce que les tarifs montent tous les ans, mais c'est d'accord. À peu près ça. Et donc, et si on le met bout à bout, et nous, c'est ça qui nous avait intéressé, c'était de faire la somme, regarder ce que ça représentait. Et donc, c'est 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros par an en France, hein, seulement en France, qui est gaspillé. Et si on le calcule en centrale nucléaire, ça fait 8 réacteurs nucléaires. 8 réacteurs nucléaires qui tournent juste parce que l'électricité ne se voit pas et du coup, on ne fait pas attention.
Donc, nous, c'est ça qu'on a. Il y a l'aspect financier que vous évoquez, ouais. Mais il y a aussi l'aspect de dire je l'ai gaspillé, non seulement je l'ai payé, mais en plus, ce n'est pas bon pour la planète de gaspiller.
Voilà, exactement, aujourd'hui, plus personne n'a envie de gaspiller. Il y a cet effort-là. Et pour voir l'ampleur du problème, on trouvait que c'était intéressant de le mettre en réacteur nucléaire. Et donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaie de proposer la meilleure solution pour réduire ce gaspillage d'électricité, donc qui fait en gros 3 choses principales et que fait pas du coup Linky. Le premier, ça va donner le temps réel. C'est-à-dire en temps réel, je vais voir sur un afficheur, donc qui est ce qu'on appelle l'assistant, avec 2 aiguilles très simples, il va donner à chaque fois que j'allume et que j'éteins un appareil, je vais voir en watts comment ça évolue. Très très simple. Deuxième élément, c'est qu'on va donner la répartition des consommations sur 9 principaux usages de la maison. Donc combien je consomme sur la cuisson, sur mon chauffage, mon eau chaude, etc. Pour savoir exactement combien je consomme chez moi. Et le dernier point, ça va être pour vous aider à agir. Donc concrètement, c'est des actions pour économiser. Et donc ça marche avec un capteur que vous posez sur le disjoncteur général. Il y a juste besoin de le poser, complètement hyper simple à faire. Et cet assistant, donc qu'on n'appelle pas un compteur. Pourquoi on l'appelle pas un compteur? Pour revenir à votre question. Alors, en effet, on n'est pas un compteur en fait. Linky, son travail, c'est le nouveau compteur d'Enedis que tout le monde connaît. Son travail, c'est de compter l'électricité pour vous permettre de le facturer. Et en l'occurrence, la nouveauté, c'est que vous n'avez plus quelqu'un qui se déplace chez vous pour vous faire vérifier ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à baisser votre consommation d'électricité avec ce que je vous ai décrit. Et donc, on arrive à ces 24% de baisse, ce que Linky ne fait pas.
Donc, on est d'accord, votre métier, c'est pas de compter, mais si on n'utilise pas le terme de compter, il faut bien mesurer de manière à pouvoir derrière suggérer les actions que vous préconisez.
Exactement, exactement. Ouais. On pense que si on veut améliorer quelque chose, il faut le mesurer, et donc c'est ça qu'on fait. Par contre, il faut rendre tangibles ces données. Si on ne les rend pas tangibles, on ne peut rien en faire.
Tout à fait. Alors, vous l'avez dit un petit peu, on pose simplement donc cet assistant, on le connecte sur le disjoncteur. Vous dites c'est très simple, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'appeler EDF, j'ai pas besoin d'avoir un technicien qui vient chez moi.
Non, alors déjà on est indépendant de tout fournisseur d'énergie. En effet, le principe, c'est, je vous invite à regarder sur le site, c'est un capteur, il y a juste un adhésif à enlever, on le met au-dessus ou en dessous du disjoncteur général, ça se pose. Ensuite on appuie sur un petit bouton, ça va synchroniser avec l'assistant. Et c'est bon.
Et alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous collectez ou que vous générez comme données et où est-ce qu'elles vont, si elles vont quelque part? Comment ça fonctionne d'un point de vue data?
Donc nous, ce qu'on collecte, c'est la puissance en temps réel que consomme la maison, la totalité de la maison. Donc à instant T, vous êtes à 1000 watts ou 100 watts. Donc on collecte cette information-là qui va faire le trajet suivant. Ça va partir du capteur, ça va être envoyé sur ce qu'on appelle donc cet assistant, donc l'afficheur. Ça va vous l'afficher. Donc cet assistant, en général, vous mettez dans une cuisine, une entrée, un salon. Donc toute la maison peut le voir. Et ensuite, il va être connecté à Internet, cet assistant. C'est un objet connecté. Et ça va remonter dans nos serveurs. Et nous, à partir de ces serveurs-là, on va faire des analyses. Il y a aussi des analyses en local, mais je vous passe les détails. Et on va vous restituer ça dans une application iOS et Android pour justement que ces données elles soient compréhensibles.
D'accord. Donc j'envoie bien mes données de consommation quelque part à l'extérieur.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Comment est-ce que vous gérez la confidentialité, la sécurité? C'est quelque chose qui inquiète peut-être un peu les gens?
Alors bien sûr, ouais, c'est un point qui est extrêmement important. Donc c'est à la fois une problématique de sécurité, c'est-à-dire que toutes les données sont cryptées à la fois en local, la transmission sont les meilleures pratiques du marché évidemment, pour que ça puisse pas être atteignable. Ensuite, il y a aussi une problématique plus de confidentialité, c'est-à-dire une raison d'être de l'entreprise. Nous, on vend pas les données, on n'a pas cette vocation-là. Notre travail, et on demande une rémunération pour ça, les gens payent pour qu'on prenne ces données-là et qu'on en fasse un service. Et donc, à partir du moment où on est payé, ces données-là, elles restent la propriété de l'utilisateur. On les rend juste tangibles. Voilà.
C'est important ce que vous dites, vous n'avez qu'un seul modèle économique, c'est celui de la vente de l'assistant et du service aux utilisateurs. Il n'y a pas de partage des données ou un double modèle basé sur de la pub ou des choses comme ça.
Non, la pub sûrement pas. Après, on a des gens qui vont... alors c'est pas très gros pour nous, mais il y a quelques gens, c'est des gens qui se doivent offrir un EcoJoco dans certains cas. Et donc là, c'est parce que c'est des entreprises qui essayent de faire des études ou d'aider les clients à accompagner. Et donc là, les gens signent un document qui dit « j'accepte que la société X, donc pas EcoJoco, mais la société X, accède à mes données ». Évidemment, c'est fait en toute transparence.
C'est intéressant ce second modèle économique parce que c'est en effet peut-être une manière qu'on pourrait imaginer pour le futur. Si j'accepte d'être mesuré et si j'accepte de donner mes informations à quelqu'un, ces informations elles valent peut-être de l'argent pour quelqu'un et donc je vais avoir un assistant gratuit en échange de ces données et pourquoi pas demain être même rémunéré. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour ça?
Alors, en tout cas, nous, ça nous paraît un peu, le mettre en place. Quelque part, ça existe déjà, puisque nous, il y a des gens qui nous achètent ce produit-là pour le faire. Je peux citer par exemple le cas de personnes qui font par exemple des travaux d'isolation ou qui installent une nouvelle pompe à chaleur. Et on sait que dans ces cas-là, dans les bâtiments, souvent il y a des effets rebonds. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes confortable chez vous, vous avez une isolation et un chauffage pertinent, vous montez le chauffage. Mais du coup, il y a une déception, je comprends pas, j'ai un super isolation, ma facture augmente. Mais pourquoi on fait ça? Pas parce qu'on est vicieux, parce que l'électricité se voit pas encore une fois. Et donc ces gens-là donnent ce produit-là à la fois pour mesurer l'efficacité de leurs travaux, pour les prouver à leurs clients et pour les aider à agir. Donc c'est assez vertueux en fait.
Intéressant. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'analyse. On va indirectement ou directement, d'ailleurs, parler sans doute d'apprentissage machine, etc. Vous dites sur votre site web, à partir d'un signal électrique global, EcoJoco détecte les signatures électriques particulières des différents appareils. Alors là, on a l'impression d'avoir une oreille d'un Indien qui pose son oreille sur le chemin de fer pour écouter le train arriver. Comment ça fonctionne? Comment arrivez-vous à savoir quels sont les appareils de l'utilisateur?
J'aime bien votre image de l'Indien, c'est un peu ça, mais c'est le cas dans beaucoup de domaines équivalents. Donc le principe est assez simple. Si vous regardez des courbes de consommation à l'œil nu, vous allez pouvoir voir très simplement qu'un frigidaire, par exemple, ne consomme pas du tout comme une plaque de cuisson. Et donc notre travail, ça va être de regarder ce que j'appelle une signature, donc c'est la façon dont consomme l'appareil, et de les comparer et donc de les dissocier. Évidemment, quand on a une maison, on doit avoir une cinquantaine d'appareils qui s'allument évidemment en même temps, avec plein d'interactions. Donc c'est, plus la maison va être grosse, plus ça va être compliqué. Mais donc on arrive à faire ça. Il y a une branche de l'intelligence artificielle qui travaille sur ça. Ça s'appelle le NILM, Non-Intrusive Load Monitoring. Et donc il y a toutes les méthodes actuelles de l'IA qu'on essaie d'utiliser pour résoudre ce problème-là, avec un but unique, c'est de rendre tangible l'électricité à la maison et vous proposer des actions pour agir. Voilà. Et donc on essaie juste d'automatiser ça.
Je me souviens d'un film passionnant sur un jeune marin qui était embauché à l'intérieur des sous-marins pour écouter les signaux émis par les bateaux et il arrivait à reconnaître au bruit si c'était un bateau ennemi ou pas, etc. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça? Est-ce que vous avez une base de données? Je me rappelle qu'ils avaient des classeurs avec les signaux de chacun des bateaux identifiés dans le monde. Ouais. Est-ce que c'est pareil? Vous avez un réfrigérateur Samsung et on connaît sa courbe.
Exactement, c'est ce qu'on fait. On essaie de constituer une grosse base de données sur ça. Et après, on essaie de l'enrichir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parliez d'apprentissage machine. Il y a certaines choses qui sont en fait très très compréhensibles pour un humain et qu'on essaie de mettre en place. Par exemple, un frigidaire qui a un problème de joint, en fait, ça se voit à l'œil nu. Et donc, on essaie de traduire ça en algorithme pour le faire. Et il y en a d'autres. Qu'on n'arrive pas à décrire avec des algorithmes, et donc on utilise des techniques d'IA, de deep learning, pour le mettre en place.
Mais c'est exactement... Alors, je comprends, le frigidaire, il est un peu ancien, donc vous détectez que j'ai un frigidaire, vous détectez qu'il consomme plus que la moyenne, je peux le comprendre. Tout à l'heure, vous me parliez de la casserole pour laquelle j'ai oublié le couvercle. Là, j'ai un peu de mal à comprendre si vous êtes capable de détecter ça.
Alors non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agit à différents niveaux. Donc typiquement, la casserole, ça fait partie des missions qu'on propose à l'utilisateur. C'est d'arriver à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc dans les missions toutes bêtes, il y a par exemple, quand vous faites cuire de l'eau avec une casserole, vous mettez un couvercle ou pas. Et ben, un simple fait de baisser, de voir l'eau qui bout, de mettre un couvercle, de baisser, vous allez diviser par deux la consommation, de voir que votre casserole, elle est, je sais pas, 1500 watts, de voir en temps réel, et c'est ça, c'est prendre conscience finalement. Ben oui, en effet, je suis plus à 1500 watts, je suis à 700 watts. Ça, ça permet de prendre conscience et donc du coup d'être motivé pour agir. Première chose. Et ensuite, on va agir à un deuxième niveau. Comment on va vous donner la consommation de votre cuisson, vous allez voir si effectivement sur ce poste de dépense là, suite aux actions que vous avez mises en place cette semaine ou ce mois-ci, ça baisse ou pas. Et donc s'il y a vraiment les deux qui marchent ensemble, c'est une prise de conscience et agir. Et voilà.
C'est pour ça que vous parlez d'un assistant à l'économie d'énergie, ça nous aide, nous, ça ne va pas réduire automatiquement l'économie, la consommation d'énergie, mais ça va nous aider à le faire.
Exactement, exactement. On considère qu'il y a plein de petites choses, de petits gestes à faire qu'on n'est pas obligé d'automatiser. Le rêve de la maison qui gère tout seul, on n'y croit pas trop. On pense que l'humain, il est assez fort. Et donc, c'est juste des petites habitudes à faire. Et la particularité, c'est que l'électricité, ne se voyant pas, et ben, on ne sait pas quoi faire.
Alors, on va revenir un peu aux data. Vous avez évoqué l'isolation, les réfrigérateurs, etc. Là, si je vends des fenêtres, des systèmes d'isolation, des réfrigérateurs, j'ai mes yeux qui brillent en me disant, ce gars-là, il a une base de données en or. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous dites, vous ne la vendez pas, etc. Pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu dans le modèle de toutes les startups que d'avoir un double modèle économique et de dire, ben, oui, moi, je serais par exemple capable, alors peut-être sans vendre des données individuelles, un fabricant de fenêtres pourrait être intéressé de savoir dans quelle région, à quel code postal il faut que j'aille envoyer des commerciaux parce qu'il y a un taux de gens qui ont des problèmes d'isolation qui est plus important que la moyenne. Est-ce que ça peut être dans vos modèles économiques?
Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Franchement, ce n'est pas un modèle qui nous intéresse vraiment. Nous, on est vraiment ce qu'on veut faire, c'est aider les gens à baisser leur consommation d'énergie. On pense qu'on est un super outil pour donner vachement plus de data à ces gens-là, en mode études. On travaille avec quelques bureaux d'études sur ces sujets-là. Et donc, nous, vraiment, notre focus, c'est notre volonté, c'est vraiment de se concentrer sur cette baisse de consommation-là, d'avoir le meilleur outil qui soit le plus simple possible. On a plein de fonctions qu'on peut encore rajouter sur ce produit-là. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on se concentre.
Et alors, moi, ce que je trouve très intéressant, qu'on parle très souvent en entreprise d'acculturation à la data. Vous, vous acculturez, vous évangélisez les consommateurs. Les consommateurs, si on fait le tour un petit peu, quelle data ils ont aujourd'hui? Ils ont leur compte bancaire avec un relevé. Ils ont peut-être leur facture de téléphonie mobile avec le détail des appels. Et vous, vous rajoutez finalement une source de data. Vous leur apprenez à utiliser plus de data.
Ouais, et en fait, ils en ont d'autres. Je trouve que c'est super intéressant de réfléchir à ça. Ils ont aussi... de façon massive, beaucoup de gens conduisent une voiture, oui. Beaucoup de gens se pèsent, ou beaucoup de gens commencent à faire de la course à pied pour comprendre. Ouais. Et à chaque fois, il y a le même mécanisme, c'est que si je veux améliorer quelque chose, il faut que je le mesure. Si je veux progresser en sport, avoir mon rythme cardiaque, c'est intéressant.
Tout à fait. Et je vais acheter une montre ou un Fitbit ou quelque chose comme ça pour pouvoir mesurer.
Exactement. Et toutes les études, c'est exactement la même idée. Toutes les études montrent ça. Et moi, on y est habitué, en fait. Donc, c'est vraiment, on essaye de rendre ça sympa et tangible, cette donnée-là, pour que ça effraie pas. Et le fait de le faire aussi sous forme de répartition des usages, vous avez un quart de votre consommation, c'est de la veille. Pas besoin d'être un fin mathématicien pour dire qu'il y a un problème, et c'est souvent le cas d'ailleurs, et donc ça fait réagir. Et c'est vraiment ça qu'on travaille, pour rester sur cet exemple-là. On sait que l'ADEME, ils disent souvent, Agence pour l'environnement, ils disent souvent plein de pubs en disant vous avez tous 80 euros, vous dépensez 80 euros en veille par an. Ok, super. Est-ce que vous avez déjà agi un jour sur vos veilles? Non. Et quand vous avez sous le nez votre veille à vous, dans votre cas particulier, qui est en général pas à 80 euros, qui est plus à 150-200 euros quand vous commencez, là, ça commence à vous énerver un petit peu, vous regardez, et en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a 2-3 petites choses toutes bêtes à changer qui vous permettent de gagner 100 euros. Et voilà. Et donc, c'est de l'argent, mais en plus, c'est aussi ce que vous évoquiez au début. Nous, c'est pour ça qu'on le fait. Arrêtez de gaspiller. Il faut qu'on change, quoi.
Et alors, si on parle, pour terminer, de retour sur investissement, vous nous avez dit ce que ça a apporté, mais ça coûte quelque chose quand même. Combien ça me coûte et quand est-ce que je vais obtenir ce retour sur investissement?
Donc aujourd'hui, la solution, nous, on la vend à 199 euros. Donc à la fois, vous pouvez le trouver sur notre site web ou sur Nature et Découverte, par exemple, qui nous distribue. Donc le retour sur investissement, il va dépendre de votre facture. Si je prends une facture moyenne qu'on évoquait au début, donc 1200 euros, ça fait 300 euros par an. Donc c'est rentabilisé en moins d'un an. En fait, c'est plus rentable que n'importe quel autre outil. Enfin, si vous prenez des travaux d'isolation qui sont hyper pertinents, c'est vraiment très rentable. Les travaux d'isolation, ils font pas que ça, ils apportent aussi du confort, ils apportent de la valeur à la maison, enfin ça a plein d'éléments, donc c'est difficilement comparable, mais c'est extrêmement rentable. L'enjeu, c'est plus de se dire, est-ce que j'ai envie de m'y mettre? Est-ce que je suis prêt à changer? Et l'électricité, on vit avec depuis très longtemps, plus de 100 ans. Et du coup, changer ça, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ça qu'on essaye de promouvoir.
Alors, une dernière petite question pour reboucler sur Linky. Est-ce que je peux utiliser votre outil pour contrôler le travail de Linky? J'ai peur de Linky, j'ai peur qu'il comptabilise mal ma consommation. Est-ce qu'avec le vôtre, je vais avoir un outil qui va me permettre de vérifier?
Alors, ça va être un peu compliqué si vous l'utilisez pour appeler EDF pour faire ça. Alors, ce qu'il faut savoir d'un point de vue strictement technique, c'est que les méthodes qu'on utilise, nous, pour mesurer, elles sont identiques souvent. Alors, je ne connais pas toutes les technologies de Linky, c'est les mêmes technologies, donc c'est très proche. À la différence près, c'est qu'eux, ils peuvent étalonner mieux. Donc, nous, on a un petit étalonnage en plus. Mais de toute façon, ça ne vous fera pas grand-chose. Enfin, vous n'allez pas pouvoir prendre EcoJoco et dire à EDF que vous êtes trompé sur la facture. Il y a des erreurs. Linky fait des erreurs, forcément, parce que c'est mesuré de la même façon. Après, elles sont quand même elles sont petites.
Et d'ailleurs, j'ai 5-6% de différence, ça ne sera pas grave. Si je m'aperçois que EcoJoco me compte la moitié de ce qu'a compté Linky, peut-être que ça pourrait être intéressant.
Non, Linky, honnêtement, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on parle de quelques pourcents. S'il y a 1 ou 2%, ce sera le maximum, je pense.
Hein. D'accord. Vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que Linky plus la 5G, c'est mauvais pour les vaches. Hein.
Non, moi je pense que le gros problème de Linky, c'est d'avoir imposé à tout le monde, notamment il y a des éléments sur les électrosensibles qui sont pas pris en compte et je pense qu'ils ont eu tort. Je pense qu'ils auraient pu nous mettre une autre couleur pour le Linky parce que c'est un peu dur. Mais au-delà de la blague, je pense que ça reste quand même un projet qui va dans le bon sens. On aurait aimé qu'on puisse pouvoir avoir des données plus précises avec Linky, ce qui nous aurait évité de déployer un équipement et donc on aurait pu rendre ça gratuit.
Je pense que vous avez tout compris en fait quand vous avez compris la différence entre compter et mesurer. Personne n'a envie d'un comptable. Par contre, on a envie de quelqu'un qui nous aide à mesurer pour nous améliorer.
Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ouais.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Laurent Bernard, merci pour toutes ces explications. On a découvert qu'en effet l'électricité, d'une part, ça pouvait nous rapporter de l'argent si on la consommait mieux, et puis on a vu que c'était de la data et qu'on pouvait éduquer tout le monde à mieux utiliser ces données concernant l'énergie. Laurent Bernard, merci. Je rappelle donc que vous êtes le CEO, Chief Executive Officer, et le cofondateur de la société qui s'appelle EcoJoco. Ça s'écrit E-C-O-J-O-K-O. Et donc vous allez sur le site web si vous avez envie de découvrir ce produit-là. Merci et à très bientôt.
On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.